C'est la bande originale de l'actu sur 106 avec Leïla Kadour-Boudali.
Bonjour à tous.
Eric Nolot.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Barré.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo.
Richard Ornac.
Bonjour.
Tout à l'heure en live, il y aura General Electric. C'est notre invité, monsieur Philippe Torreto.
Non.
Bienvenue, Philippe, dans ce studio que vous connaissez peut-être même mieux que moi. J'ai l'impression que vous connaissez tellement bien la maison de la radio, vous êtes un peu chez vous ici.
Un petit peu.
Oui, oui, maison quand même.
À moitié.
Maison, oui, c'est ça, votre moitié. Très bien, n'en parlons pas. Vous jouez la célèbre pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, dans une mise en scène de Dominique Pitoisé. Ça fait 3 ans, 4 ans que vous jouez cette mise en scène ?
On l'a fait 2 ans en tournée, partout en France. Et puis, on a terminé la deuxième tournée au Théâtre de l'Odéon, en mai-juin 14. Et puis on pensait que c'en était fini, et puis et voilà.
Et ça repart
nous
pour un
voilà
tour
au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Voilà, pour 60 représentations exceptionnelles, tous les qualificatifs sont grandiloquents, c'est dément, convaincant, dément, j'aime bien le jeu de mots d'ailleurs, inattendu, magistral, émouvant, formidable. Vous avez reçu quand même le Molière du meilleur comédien pour cette interprétation dans Cyrano de Bergerac, c'est pas rien. Prix Beaumarchais également. Prix de la critique, on va évidemment en parler avec,
ça a l'air bien.
Avec Eric Nolot. Oui, alors
c'est génial.
Je me dois.
Faut ajouter ça au dossier de presse. Ça a l'air bien.
Je me dois l'honnêteté et la vérité de ne pas avoir pu aller hier soir applaudir cette pièce comme prévu. Mais alors pour une
ça
raison
fait
de
4
tournage,
ans qu'il joue quand même. Hein.
Ouais, c'est mais voilà.
Voilà.
Voilà. Et je devais y aller hier soir et la représentation a été décalée ou supprimée, celle d'hier soir.
C'était annulé pour des raisons de promotion. Voilà. Enregistrer l'émission de.
Ça n'a aucun rapport avec la réservation de Nagui.
Non, parce que Philippe a eu l'élégance. Philippe a eu l'élégance d'essayer de trouver d'autres dates qui ne correspondaient pas. Mais Eric Nolot l'a vu, Leïla l'a applaudi également. On va en parler. Mais d'abord, parlons de Philippe Torreto lui-même, himself. Il a dû, pour les besoins d'un tournage présumé coupable, relatant l'affaire d'Outreau, perdre des kilos.
Ouais, mais énormément.
Mais combien
c'était...
de kilos ?
Au moins une trentaine.
100.
Une trentaine.
Alors pas loin.
Non, pas exagéré.
25. 25 kilos.
20, c'est bon.
27.
27 ouais. kilos. Mais 27. C'était.
Mais c'est parce qu'il jouait un enfant.
Alors 27. Non. Ok. Non, ça c'est la bonne réponse. C'est 27. Maintenant l'autre question, c'est comment faire pour perdre 27 kilos.
Tu arrêtes de manger.
Il s'est amputé d'un membre.
Tu jeûnes. Tu.
On dit pas lequel.
Non.
Un régime.
Oui, mais
du bouillon, des pommes et c'est
non.
tout quoi.
Non.
C'est masturbé.
De la poussière.
Ah, non plus. Mais quel rapport. Un régime.
Ah oui si. C'est plein de protéines, fromage blanc.
C'est ça. Vous n'avez mangé que du fromage blanc.
Oui, au bout d'un moment, oui. Enfin, j'ai commencé par un régime dont je tairai le nom parce qu'il n'est pas recommandé. Et puis, pendant 3 semaines...
Lequel ?
Du camp. C'est du camp.
Et puis...
c'est celui où on mange que de la viande, c'est ça ? Et rien voilà. d'autre. Et ça marche ?
Ah bah oui, ça a marché.
Alors combien vous avez repris de kilos après ?
Mais pas durable.
C'est pas forcément...
Recommandé.
Recommandé.
D'accord.
Et puis après, je l'ai radicalisé. C'est-à-dire que j'ai supprimé même la viande pour remplacer par du fromage blanc... au petit déjeuner, au dîner, et puis après j'ai supprimé le fromage blanc du dîner, et puis après j'ai supprimé le fromage blanc du déjeuner.
Non, on vous apporte du fromage blanc, vous avez envie de vomir, quoi, vous en avez marre.
Non, ça va, je peux en manger encore, mais c'est bon, c'était du 0% avec de l'aspartame.
Mais là, en même temps, vous venez de faire un geste comme si vous alliez vous battre quand on a parlé. Vous avez retroussé vos.
Ah, moi j'ai vu Taras Bulba. J'ai vu Taras Bulba qui.
Ah, bah c'est sûr qu'en ce moment, avec la tronche que j'ai.
Ça vous va bien?
C'est vrai, j'ai l'impression d'être une imposture de Patrick Sébastien, mais un peu. Vous savez, quand il a fait ça pendant un moment.
Quand vous dites une imposture de Patrick Sébastien, c'est parce que vous pensez de Patrick Sébastien. C'est
un déguisement dans le Grand Bluff. Il est arrivé dans le Grand Bluff.
Vous ne pensez pas quand même avoir le talent de Patrick Sébastien, monsieur.
Mais non, pas le quart du centième.
Il faut préciser que vous avez une moustache et que vous n'avez...
Voilà, j'ai une grosse moustache tombante.
Et le crâne rasé.
Et je me souviens de l'avoir vu dans une émission, il avait écrit un livre, donc un faux livre d'un mec en prison.
Absolument.
Et je trouve que je lui ressemble un petit peu.
Quelles sont les deux disciplines sportives, justement, et en particulier d'athlétisme, que pratiquait Philippe Torreto lorsqu'il était enfant ?
Saut à la perche.
Le javelot.
Ouais.
Et le disque. Le disque.
Il y en a qui bossent, hein. Il y en a qui bossent.
Ouais. Ah, il y en a qui ont bossé, ouais.
Il y en a qui ont de la chance aussi.
Il y en a qui sont plus payés, surtout.
C'était à Petit-Quevilly, c'est ça ?
Il y en a qui n'ont pas de
vie
non plus.
Oui, au CSMPQ. Voilà.
Et alors, mais quel était votre niveau? C'était simplement, vous pratiquiez ce sport ou vous étiez vraiment
doué? J'étais tout gamin, mais j'avais 12, 13 ans et à cette époque-là, dans les clubs d'athlétisme, on est pluridisciplinaire, on fait de la course surtout et moi je courais pas, donc j'allais m'entraîner avec les gros balèzes. C'était les frères Thioslin, s'ils m'écoutent, je les embrasse, William, Willy et Wilfried.
Étiez-vous bon?
Et à force de travailler avec eux, oui, on s'entraînait avec une baramine et tout. Donc, j'avais un très bon niveau de javelot.
Baramine.
Non, c'était rude.
Quand tu lances la baramine, après, tu peux le javelot.
J'ai l'impression que c'est des jeux gaéliques, tu soulèves des pierres, tu jettes des troncs d'arbres. Ouais.
Mais je me souviens quand l'un de ces frères-là lançait le disque, il m'envoyait dans le parcours de cross pour bloquer les gens parce que son disque dépassait le
terrain.
Stade, le terrain. On avait un petit terrain, hein, sur les temps. Mais il était vice-champion d'Europe, quand même.
Puisqu'on parle de votre hygiène de vie et peut-être hygiène alimentaire que vous avez récupérée, est-ce qu'il faut être physiquement en forme quand on est comme vous, sur scène, tous les soirs, pendant autant de temps? Est-ce que physiquement, on doit s'entraîner, on doit faire de la gym, du cardio, du vélo,
alors,
que sais-je?
Je marche beaucoup, mais maintenant, j'ai remplacé la course par la marche sportive.
C'est-à-dire une marche quoi, rythmée, active?
Hyper rythmée, ouais. Ouais, ouais. Et ça a le double avantage de pouvoir promener mon chien en même temps. Et puis, de moins m'abîmer les genoux. Et puis de moins... parce que il y a des fatigues après qui peuvent se payer pendant la journée. Tandis que la marche, ça agit finalement sur tous les muscles comme la course.
C'est une hygiène obligatoire. On ne se rend pas compte, nous, quand on va au théâtre, au cinéma, quand on voit des comédiens jouer, ils ont le même genre d'entraînement que peut avoir un sportif. C'est pas simplement être sur scène et jouer un rôle et avoir un texte, c'est aussi physiquement éprouvant.
Il doit y avoir de tout chez les comédiens, mais je sais que c'est vrai que jouer Cyrano, c'est engageant, ouais. c'est vraiment engageant, ça fait mal au corps quand même.
Ça fait mal à la tête aussi. On va parler de cette mise en scène particulière parce que ça se passe, Leïla, dans un hôpital psychiatrique. C'est ça.
C'est un peu l'ouverture de Cyrano et déroutante. On a l'impression d'être dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, avec un Cyrano qui fait dos à la scène, dont on ne perçoit que le crâne luisant, entouré de joyeux drilles, et on se demande, sont-ils en train de s'amuser à jouer Cyrano dans l'hôpital psychiatrique? Sont-ils eux-mêmes des Cyrano? Que se passe-t-il? Donc là, on a, en termes de mise en scène, quelque chose de totalement déroutant.
Le texte est respecté.
Le texte est respecté, il est même plus que respecté, il est donné à entendre. Il est donné à entendre,
ça fait plaisir, ça.
Et on oublie même que c'est un texte versifié. Tellement il est donné à entendre et tellement on est dans une prise avec le réel. Je vois qu'on a beaucoup de scolaires aujourd'hui dans le studio 106. Il faut ne pas hésiter à aller voir cette mise en scène-là.
Qu'est-ce qui est pour vous la recette de ce qu'est en train d'expliquer Leïla? C'est le dénuement justement du décor et du costume, puisque donc j'imagine qu'il n'y a pas les costumes d'époque non plus.
Alors en costume, non, ils sont en basket, ils sont en jogging.
Moi j'ai un Marcel, un très
Vous
bon
avez
Marcel
un Marcel blanc,
blanc
très moulant.
Oui,
donc c'est
pas mon avantage.
Est-ce que ça met en valeur le texte et le jeu?
Forcément, parce que c'est un zoom sur le texte, puisque le décor ne raconte pas la pièce, les accessoires ne racontent pas la pièce, ni les costumes. Donc, pour suivre, il faut écouter. Et écouter, comme le disait Léa, c'est ce monde de gens qui s'inventent une possibilité d'évasion, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, grâce à Nicholson. Et ben là, le Nicholson, c'est Cyrano. Un mec, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Et il ne se réveille que quand il entend Montfleury. Et là, il fait coquin. Et ça commence. Et eux, grâce à ça, vont vivre, vont pouvoir s'échapper à leurs conditions comme ça dans cet asile. Mais finalement, cette mise en scène, c'est pour moi une très belle métaphore de la fonction du théâtre dans nos sociétés. Pourquoi on vient voir ensemble, comme ça, une pièce, n'importe quelle pièce? C'est ce désir d'évasion-là. Et je crois que Cyrano, par Rostand, questionne beaucoup ça. Questionne beaucoup le rapport public-personnage. À la fin de Cyrano, Cyrano se lève comme ça, dans le rayon de lune, il est blessé, mortellement blessé, et tout d'un coup il dit « Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes mille? Ah, mais je vous reconnais, tous mes vieux ennemis, le mensonge, tiens, etc. » Et il regarde le public, et il dit au public « Vous êtes, c'est à cause de vous que je meurs, c'est à cause de votre lâcheté, à cause de vos compromissions, à cause de tout. » Et c'est rarissime.
À cause du regard
dans l'histoire
du théâtre. Que vous avez
un
sur
personnage
moi aussi.
Qui règle ses comptes c'est avec ceux qui viennent l'admirer, finalement.
Et de faire c'est Cyrano dingue. Un fou interné, quelque part, en tout cas par le début de la mise en scène, ça va bien avec ce côté, il est fou d'amour, il est aussi perdu dans le monde dans lequel il vit. Mmh. Et l'adresse au public, elle est merveilleuse et elle vous... Elle vous ramasse très
mon personnage, donc Cyrano, c'est le premier de la bande qui regarde le public au tout début avec une sorte d'instinct en se disant, tiens, ça doit être par là qu'il faut jouer. Mais pour les autres, je regarde le mur du fond de la salle. Donc ils disent, je regarde le papier peint, quoi. Et tandis que, mais pour moi, c'est comme une intuition. Que c'est par là que ça se joue.
Le personnage vous colle parce que vous étiez timide quand vous étiez gamin. Est-ce que Cyrano est-ce qu'il est timide? Est-ce qu'il est exclu par les autres? Est-ce qu'il il cache son amour pour Roxane?
Mais je crois qu'on a tous quelque chose de Cyrano et de Tennessee. Mais on a tous on a une part de ça, de quelque chose qui voudrait vibrer, qui n'y arrive pas. Lui, c'est l'amour. Il sait qu'il ne sera il se sait pas aimable à cause de son nez, à cause de sa laideur physique. Mais on a tous quelque chose comme ça qui nous empêche d'accéder à quelque chose.
Et de faire le pas vers l'avant.
Il nous ressemble beaucoup.
Éric Nolot, c'est le Cyrano que vous aviez envie de voir.
Ça,
vous
et avez comment découvert ça à l'adresse des scolaires, que c'est encore donné dans l'ancienne orthographe. Hein. À partir de demain, ce sera Cyrano, C-I-R-A-N-O, puis Bergerac avec un K à la fin. Donc
tu veux nous énerver?
Oui, je suis bien énervé avec cette histoire.
Enfin, Éric, c'est surtout donné au théâtre de la Porte Saint-Martin, là où le premier Cyrano avait été donné.
Oui.
Donc je trouve que c'est encore une occasion supplémentaire d'y retourner, parce qu'il y avait eu la mise en scène à l'Odéon.
T'étais allé à la première.
Et je suis allé à la première.
Et si je peux me permettre, ce qui est assez incroyable dans cette histoire de reprise justement à la Porte Saint-Martin, c'est que nous, on n'avait jamais évidemment anticipé ou même imaginé qu'on aurait pu se retrouver dans ce magnifique théâtre parisien. Et le metteur en scène, Dominique Pitoisé, pour l'acte 5, avait voulu que j'arrive à l'acte 5 avec le vrai costume de Cyrano de Coquelin, l'acteur Coquelin qui l'a créé. Donc. Et là, je me retrouve avec ce costume-là, la copie.
Ah, c'est le vrai.
C'est la copie qu'on en a faite. Et je trouve que c'est un clin d'œil de la vie incroyable.
Il y a moi deux choses qui m'intriguent, c'est vous et le personnage de Cyrano. Alors vous, il y a quelque chose d'étrange, c'est parce que vous êtes formidable dans ce rôle.
Merci.
Alors il faut le rappeler, le grand public en est convaincu, mais dans certains milieux, quand même un peu élitistes, on dit à tort et ton, ah oui, vous tort et ton, faut vraiment aller le voir, et on est obligé d'insister en disant, allez le voir, c'est un Cyrano formidable. Mais il y a encore ce petit décalage.
Mais pourquoi? Parce que l'image de Toreton est plus forte que celle de Cyrano?
Exactement. J'ai l'impression qu'il y a encore une petite résistance à vaincre. Alors, c'est pas celle du grand public. On a entendu de l'accueil et puis on connaît votre carrière. Mais dans certains milieux, il y a encore ce côté, on tord un peu le nez quand on entend votre nom avec le grand
répertoire.
Mais ce
n'est pas ma bataille, franchement. Moi, je préfère que le public soit là et ce certain milieu.
Enfin, il y a eu le Molière, ses pères ont reconnu.
Non, mais là, je fais part de conversations privées. Je dis, je suis allé voir Cyrano.
Avec qui?
Toreton est extraordinaire. Je balance les noms à la fin, voilà. Et le personnage de Cyrano, alors pourquoi il est si particulier? Parce qu'à mon avis, il n'existe pas. Tartuffe existe, on l'a tous croisé. L'avare, ça existe. Roméo et Juliette, des histoires d'amour impossibles, ça existe. Don Juan, il suffit d'avoir vu Daniel Morin en soirée pour voir que ça existe. Mais Cyrano de Bergerac, c'est un rêve et il ne prend vie que si quelqu'un l'habite. Et c'est pour ça que les grands acteurs veulent jouer ça et que nous, on en garde un souvenir, que ce soit Depardieu ou vous, on garde des souvenirs. Parce qu'en fait, c'est une invention.
C'est une invention, c'est un fantasme, c'est vrai, mais... Mais il se trouve qu'il a existé, cet homme.
Oui, en vrai, oui. C'est le caractère, Cyrano. Ce côté, complètement.
Et que Rostand a fait un travail incroyable de recherche, parce que tout est vrai. Alors, tout est un peu exagéré, il s'arrange un petit peu avec, parfois, la chronologie des événements, mais il savait se battre à l'épée, il avait une cousine, effectivement, dont il en pince un petit peu, mais enfin, on pense qu'il était plutôt homosexuel, mais
il vivait...
Ouais, incroyable.
C'est bien caché dans la pièce.
Coming out.
Mais cela étant dit, ce qui est
d'où
incroyable...
D'où la petite moustache et le Marcel à la Freddie Mercury.
Ah ouais, ouais. Là, d'un coup, je vois Village People.
Nous avons une BO. Je préfère Freddie Mercury que enfin Queen. Mais on a une BO dans le spectacle absolument dingue, quoi. On a justement Queen.
C'est un grand terrain de nulle part. Avec de belles poignées d'argent.
Je dois vous dire que...
Il est fatigué, la Freddie Mercury, sur cette chanson.
C'est Alain Bachung.
C'est Bachung, comme un Lego. Ouais. Ça intervient à la fin de la pièce. Je connais très, très bien Cyrano. Je pensais pas que vous alliez me faire pleurer à plusieurs reprises. Et là, Bachung plus le dernier souffle de Cyrano, vous m'avez achevé.
Ah. Je sais pas si je dois m'en réjouir, mais si je m'en réjouis.
En tout cas, ça se voit que vous êtes content.
Oui. Non, mais on trouvait que ce texte de Gérard Mancé, c'est ça, avec cette voix de Bachung, mais... que ça collait tellement bien à cette condition, ce petit aéropage là d'être humain isolé, perdu, Et c'est ce que dit cette chanson magnifique, quoi. C'est regarder les vivre, quoi. Ces petites fourmis qui essayent de, voilà, on essaye d'avoir des vies un petit peu.
Oui, mais il faut qu'elles vivent bien, les fourmis, avant de disparaître, comme ouais, les égaux. Il faut qu'elles vivent bien, qu'elles soient dignes.
Il y a quelque chose de très désolé dans cette chanson de perdu pour cette humanité qui part à la dérive avec nos villes qui se ressemblent, nos carrefours qui se transforment en ronds-points, etc. Et on voilà.
Je vais essayer de citer, parce que la distribution est importante pour cette pièce d'Edmond Rostand. Dominique Pitoisé, donc, pour la mise en scène. Hervé Briot, Adrien Cochetier, Antoine Chollet, Patrice Costa, Gilles Fisseau, Yveline Hamon, Jean-François Lapalus, Bruno Houzeau. C'est Juliane Roth qui joue Roxane.
Oui.
Luc Tremblay et Martine Vandeville. Ça a déjà commencé et ça continuera jusqu'à mi-avril, à peu près, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. On continue d'en parler avec notre invité qui est Philippe Torreton dans Cyrano de Bergerac.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Pierre-Emmanuel Barré, qu'est-ce qu'il y a, quoi ?
Salut Nagui, salut, calmez-vous !
Oui,
calmez-vous, calmez-vous tous, j'ai une devinette. Est-ce que vous savez ce qu'il fait un ninja juif ? Il lance des étoiles de David ! Bah ! Bim ! 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez rigolé, je ne suis pas là pour vous distraire avec mes traits d'esprit joyeux et pédagogiques. Aujourd'hui, on va parler de nos amis les vieux. Et quand on connaît l'âge moyen de nos auditeurs, on se dit que c'est un sujet fédérateur. Salut les vieux, j'espère que tout va bien à la maison, que vous n'avez pas mal à vos petites articulations de vieux et que vous tiendrez jusqu'à la fin de l'émission. Boum ! On vient de perdre tous les cardiaques. Alors, un vieux, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est comme un jeune, mais en moins bien. Alors, pour différencier un vieux d'un jeune, c'est très simple. Vous les mettez côte à côte, tout nus. S'il y a plein de peau qui pend, c'est un vieux. Si, par exemple, je dis à Michel Rocard, « Hé, Michel, t'arrives à toucher tes pieds ?» Il me répond, « Oui, mais avec mes testicules. » Quand on devient vieux, on a la peau qui plisse, on bave, on sent le pipi. En fait, vieillir, c'est un peu comme se transformer en vagin.
Ah non.
Alors ça a quelques avantages.
Non.
Ça a quelques avantages.
Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, alors.
Ça a quelques avantages, bien sûr. Moi qui suis jeune, figurez-vous que j'ai envie d'aller aux toilettes depuis le début de l'émission. Eh bien, je suis obligé de me retenir, tandis que je vois la poche à caca de Daniel se remplir discrètement depuis 10 minutes. Ça va, Daniel ? À l'aise, bien au chaud ? T'as raison de profiter, le temps file entre nos doigts, tu ne seras bientôt plus là pour voir tomber les seins de Leïla. L'autre avantage d'être vieux, c'est bien sûr la retraite. Alors la retraite, c'est comme un salaire mensuel, sauf que ton travail, c'est mourir lentement en regardant des chiffres et des lettres. Alors, la retraite, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la même, bien entendu. En France, un retraité touche en moyenne 1306 €, mais certains se débrouillent mieux.
Non, jamais l'avis.
1306, je t'assure, c'est parce que tu es déconnecté. Par exemple, on a appris cette semaine que Giscard coûtait chaque année 2 500 000 € aux contribuables. Le mec peut pas manger autre chose que de la soupe et des yaourts, on se demande ce qu'il fout avec toute cette thune. Alors, il y a ces 30 000 balles de rente mensuelle, bien sûr. Mais il y a également un appartement, un bureau, des billets d'avion à volonté, une voiture, 2 chauffeurs, 4 policiers, 15 gendarmes, 3 maîtres d'hôtel, une équipe de 10 conseillers, des secrétaires, une femme de ménage et 5 personnes payées à plein temps pour tirer sa peau en arrière, sinon il trébuche sur son front. Ceci dit, 15 gendarmes et 4 policiers, moi je comprends, quand tu voles 2,5 millions par an aux Français, t'as intérêt à assurer ta sécurité. Allez, attention, Giscard, c'est pas le seul. Jacques Chirac, on lui file 1,5 million d'euros par an pour avoir été président. Il se souvient même pas qu'il a été président. Et Sarkozy, 2,2 millions alors qu'il est même pas à la retraite. J'ai fait le calcul, ça fait 6 000 € par jour, 250 par heure. Sarkozy, quand il fait une pause caca de 20 minutes, on le paye 83 €. Le mec, il nous a enculé pendant 5 ans, on lui file 83 € pour poser une pêche. Alors, c'est scandaleux. Heureusement.
Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun chauffeur de salle et que le public applaudit.
C'est parce qu'il a envie d'applaudir. Heureusement, pour mettre fin à ce scandale, j'ai trouvé la solution. Désormais, on perd la retraite des présidents au prorata de leur efficacité. Et je peux vous dire que Sarkozy, sa retraite, il va la passer à tapiner dans une camionnette sur une aire d'autoroute pour se payer de la crème anti-hémorroïde. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sport et loisirs et je vous apprendrai à fabriquer un trampoline géant avec 5 pinces à linge et la peau des couilles de Michel Rocard. Merci de m'avoir écouté.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Bon, là, l'émission est lancée.
Voilà.
que j'ai bien aimé, c'est dans les 15 premières secondes du papier de Pierre-Emmanuel Barré, le regard de Philippe Thorezan qui c'est prévu, ça vous laissez ou c'est quelqu'un qui veut
c'est
s'exprimer
en direct, c'est en direct.
T'es sûr de tes 1300 euros de moyenne de retraite?
1306.
Mais non, c'est beaucoup moins.
1306. Oh, c'est déjà ça, écoute.
Non, mais par contre, il y a des millions de retraités qui touchent 860 et quelques.
Qui ne peuvent même pas ni payer un loyer, ni manger avec leur retraite.
C'est quoi la moyenne 1306, de
1306 non, mais non seulement je dis que c'est pas beaucoup, mais je pense que c'est moins.
Non, j'ai vérifié, attends.
D'accord, ok. On déconne, mais quand même, l'information.
Attention.
Rappelez-vous. C'est General Electric qui revient avec un nouvel album qui s'appelle To Be a Stranger et ils sont en live dans cette bande originale. Le premier titre qu'ils nous offrent s'appelle, je vais le retrouver comme ça au moins, je vais pas me tromper, c'est Angle Boogie ou pas? Ouais, Angle Boogie, on y va pour Angle Boogie, faites du bruit!
Tripping off your tongue, you're feeding us corners, but you know it would be okay if what you said was nice. You're shooting elbows from your mouth, they can't be negated. You walk into a room, the view gets pixelated, killing smiles on faces, lips turn blue.
Sur l'album To Be a Stranger de General Electric, Hervé, on en est le leader de ce groupe. Ce nouvel album a été fait plutôt à Berlin, plutôt à Paris, plutôt à Londres, puisque je sais que tu es un citoyen du monde, mais européen surtout.
Absolument, oui.
Il a été fait où à Berlin?
C'était plutôt à Berlin, ouais, sauf les cordes et les cuivres qui ont été enregistrées à Paris.
Alors, il y a le son très 60s de ce clavier.
Ouais,
il y a des machines avec lesquelles tu travailles. Est-ce que c'est essentiellement sur un ordinateur ou avec des vrais instruments que ça a été créé? Et quel est ce rapport entre l'humain et la machine chez toi?
C'est un rapport collaboratif. mais l'idée c'est, oui, je programme les rythmes sur ordinateur. Et le reste, c'est plutôt joué, en fait. Donc c'est assez organique quand même, mais j'aime bien l'idée de, même si j'utilise des claviers qui sont plutôt old school, donc ouais. Comme tu le disais, des années 60-70.
J'adore ce son, ah ouais.
C'est super, ouais.
Ah ouais, ouais. Très agréable.
L'idée, c'est quand même d'emmener ça vers le futur, donc de mélanger ça avec des effets plus digitaux, plus modernes.
Bien sûr. Mais les percussions, c'est sûrement le plus vieil instrument du monde et ça n'a pas de couleur musicale particulière, ça dépend ce qu'on
ça
en fait.
Ça n'a pas d'âge, ouais, absolument.
Exactement.
Ouais.
To be a stranger, être un étranger, c'est un peu ce que tu ressens ou ce que tu veux nous expliquer dans ce que tu ressens en étant toi-même un étranger quand
ouais.
T'es à Berlin ou quand t'es à Londres et peut-être même quand tu reviens en France avec le son Géant électrique, c'est ce décalage entre ce que tu es et...
Non, à Paris, je me sens à la maison, je dois dire, quand même, toujours.
Bienvenue.
mais j'ai, d'être parti depuis 1999, ça fait qu'effectivement, il y a cette sensation d'avoir perdu ses racines et de plus vraiment appartenir nulle part et partout à la fois, ce qui est en même temps très agréable et un petit peu inconfortable, quoi. Et
c'est un choix, donc c'est ce choix
absolument,
il est artistique,
ouais.
Il est fiscal, il est amoureux,
non.
Il est quoi?
Ah non, c'est juste, on n'a qu'une vie. Moi-même et ma femme Sarah, on s'est dit qu'on allait aller bourlinguer, quoi, aller voir d'autres choses, parce qu'il y a plein d'autres super villes que Paris dans le monde.
Il y a des, ça je confirme. Et puis mais quand on revient à Paris, on se dit que quand même la France c'est le plus beau pays du monde.
C'est terrible, c'est sûr.
On a beau bouger, la France est le plus beau pays du monde. Il y a sur cet album. Le Misunderstanding ou encore Magnet. Avec une voix qui va chercher vers le Prince un tout petit peu dans l'interprétation, faut le prendre comme un compliment.
Sur ce morceau là,
ouais.
Ouais.
Comme un peu sur Whispers to Me. Mais ça, on fera du Kiss plus tard.
C'est vrai, c'est vrai.
Et il y a un titre sur l'album dont j'aimerais qu'on parle, c'est The Man Who Unrevealed. C'est ça. Ça peut être aussi du Jagger, hein. Les références, elles sont un peu partout. Cette histoire, c'est une histoire vraie de cet homme sans empreinte digitale?
Oui, c'est parti d'une histoire vraie, effectivement, qui est la mienne. En fait, j'ai réalisé une fois, c'était au service d'immigration à l'aéroport à New York.
Oui, ne plaisante pas. Je rappelle que si vous avez une vanne à faire, vous trouvez l'endroit que vous voulez sur la planète.
C'est pas là.
Non.
C'est pas
il
là.
Vaut mieux aller en Syrie pour faire des vannes, mais pas au service des douanes aux États-Unis.
Ouais,
c'est pas possible, ça.
Effectivement. Et donc, ils ont réalisé qu'ils pouvaient plus prendre mes empreintes digitales. Tellement
tes doigts étaient.
En fait, les doigts, les empreintes s'effacent du fait de jouer beaucoup de clavier pendant beaucoup d'années. Apparemment, c'est classique, hein, chez les claviéristes. Je connaissais pas ce truc-là. Et j'ai pris ça comme base pour le morceau, effectivement, en imaginant un personnage qui voit ses empreintes digitales se dérouler, ses lignes de la main disparaître jusqu'à un moment où les gens ne le voient plus.
Un très bon album étayé, vous voyez, par son expérience et son vécu et ce qui se passe en lui. Hervé, c'est un sérieux. Moi, je me souviens de quelques boeufs improvisés avec Mathieu Chédid, M, sur le plateau de Tarapaza.
Ah oui, c'était super ça.
C'était
ouais.
Des grands moments. Et puis, ici, sur Inter, c'était toi qui avais composé le générique de l'émission qu'Isabelle Giordano présentait ici.
Oui,
il y a
c'est ça,
années.
Oui.
C'est ça. Donc, t'es aussi un peu chez toi, finalement.
Ouais, oui, voilà. En quelque sorte. Oui.
Et on aime General Electric. Ils sont en tournée. General Electric, c'est un groupe, hein, donc c'est ils au pluriel, on est d'accord. Hein. Ils sont en tournée, General Electric, c'est français.
Alors c'est-à-dire que quand on est sur scène, ça devient un groupe, effectivement.
C'est ça, ouais. Donc ils sont en tournée. Avec cet album To Be a Stranger, il y a quelques dates que nous mettrons bien sûr sur le site. Il y a Nîmes le 9 mars, ensuite Agen, La Roche-sur-Yon, Marseille, Grenoble, Strasbourg, Lille, Caen, Nantes. À Paris, le rendez-vous sera au Trianon. C'est déjà complet le 31 mars, donc il y a une date supplémentaire qui a été rajoutée, rien que ça, à l'Olympia, c'est trop chic. Sauf que le temps de trouver, j'imagine, un Olympia libre, ça sera au mois de novembre à la rentrée. Merci Hervé, à tout à l'heure pour une reprise qui va nous offrir dans cette bande originale.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Quelques dates de la carrière de Philippe Torreton, qui est notre invité, qui incarne d'une manière magistrale et formidable ce Cyrano de Bergerac, encore pendant quelques dates jusqu'à la mi-avril au théâtre de la Porte Saint-Martin. On a mis en musique des dates que l'on a choisies d'une manière totalement... subjective, évidemment, sinon c'est pas intéressant. En 65, bah tiens, on parlait des Stones. Get No Satisfaction des Rolling Stones. Vous, c'est pas c'est quand 65 là.
Le 13 octobre 65 plus exactement, ce sont les premières manifestations massives aux États-Unis contre la guerre au Vietnam.
Ah oui, donc c'est pour la date clé.
C'est pour ça, vous voyez, tout s'explique, Philippe Toretto.
Oui, oui, oui.
C'est cette révolte, cette envie de s'opposer,
exactement,
de combattre.
Ce manifestant qui sommeille, et pas toujours qui sommeille d'ailleurs, non, en vous. maman institutrice, est-ce que vous avez été élève de votre maman?
Non, elle a jamais voulu nous avoir dans sa classe.
Mais comme toutes les mamans profs, elle veut pas.
Ouais.
Comme tous les enfants surtout.
C'est d'abord les mamans, c'est ma mère qui voulait pas.
Ouais, ouais. Ah bon. C'est vraiment elle qui voulait pas. Ouais. Nous, je pense qu'on aurait voulu.
C'était un peu la honte à l'époque, non, d'avoir sa mère, non. Moi, c'était pas bien vu, non.
Pourquoi votre mère est prof?
J'ai pas de souvenir. Ouais.
Et c'était pas bien vu quoi que votre maman soit prof.
Non, je voulais pas tomber dans la classe de ma mère. Non, ça c'est. Non, je priais tous les soirs, non. Non, et tout le monde priait.
Mais ma mère est incitante en maternelle, alors on est pas à 3-4 ans, on a plutôt envie d'être avec maman.
Et toi, t'es prof de quoi?
Français.
Ah ouais, moi aussi.
Ouais.
Moi aussi. Ceci étant, j'ai jamais voulu être avec ma maman dans un cours de français. Et lorsque j'avais passé mon bac blanc, pardon cette petite anecdote personnelle, j'avais passé mon bac blanc et ma mère regarde ma disserte et elle me dit mais c'est une catastrophe. Il faut qu'on travaille. Et on a travaillé 2 semaines ensemble et j'ai eu 18 à l'oral et 14 à l'écrit.
Ah l'amour, tu vois.
Merci maman. En deux semaines. Ouais, en 2 semaines. C'était pas la peine d'aller un an. Ouais,
exactement.
Je suis d'accord avec toi.
Réduisons la scolarité à 2 semaines, ça suffit largement.
Quel genre d'enfant étiez-vous? Réservé, timide, il paraît qu'on vous donnait un jouet, vous mettiez en votre coin et vous jouiez de peinard.
Ah oui, 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 vraiment. J'étais comme Richard Larnac.
Comme Richard Larnac.
Peinard, silencieux et voilà.
Et sans
non, c'est vrai,
digitale.
J'étais très, très réservé, très.
Alcoolique enfant, vous dire, vous étiez alcoolique.
Non.
Et très, très timide, réservé, ouais, c'est vrai. Et
vous étiez bon élève ou pas à l'école
après, voilà.
À l'école, vous étiez bon élève ou non?
Non, moyen. Enfin, ni bon ni mauvais. Cette légion énorme de moyens. On est des millions.
Oui, on est dans la moyenne. Ouais.
Ouais, très dépendant des profs aussi, très dépendant de ce qui se passe en classe, subissant les classes un peu turbulentes. Si la classe était bonne, je devenais meilleur. Si le prof était super et que, pour des tas de raisons, un truc se passait, je devenais meilleur. Donc très dépendant.
Je suis d'accord avec vous. On est bon dans les matières où le prof est bon.
Mais
et
c'est vrai,
quand un prof est un gros boulet, en fait, on rejette la matière et on n'a pas du tout envie de.
J'ai que des mauvais
non,
profs.
Non, attends, moi j'étais nul en maths et j'ai eu très bons profs de maths. Hein.
Vous êtes d'accord ou pas?
Non, c'est des.
Vous êtes d'accord ou pas?
C'est des magots.
Est-ce qu'il y a des mauvais profs qui vous accompagnent? Vous pouvez nous les montrer. C'est oui aussi.
En 1977.
Michel Sardou.
Ouais.
Excellent.
Eagles, Hotel California, avec malheureusement.
Oui.
C'est Don Henley, je crois.
Don Henley, qui
nous a quitté. C'est une sale année, en tout cas, pour les artistes depuis la naissance de 2016.
Depuis
Zaz. Ouais. Non, tais-toi. En 77, c'est votre rencontre avec le théâtre. En tout cas, c'est la date que nous avons retrouvée.
Oui, c'est
à l'âge
ça.
De 12
je devais
ans.
Avoir 12 ans, ouais. Exact. C'est en 5e. Mon prof de français que je salue, monsieur Désir. Qui a conseillé à mes parents pour justement un peu vaincre cette timidité, mon côté timoré comme ça dans le fond de la classe à rien dire, que une activité théâtrale pourrait me faire du bien. Et puis voilà.
Faire du bien quoi, à votre timidité?
Oui,
faire
voilà,
faire du
pour,
bien
pour aider
pour
draguer, à s'exprimer.
Pour draguer un peu aussi.
C'est venu après ça.
Ça va avec.
Ouais.
Le théâtre, ça vous a servi à combattre la timidité pour aller comme Cyrano, pour aller vers les filles.
En fait, ça aide à tout. Hein. C'est une émancipation. Pour moi, ce qui me plaisait au début au théâtre, c'était tout sauf le théâtre. C'était tout ce qu'il y avait avec. C'était se retrouver justement avec des grandes de 3e. Quand on est en 5e, c'est super.
Mais apprendre par cœur alors qu'on n'est pas forcément
rentrer
bon.
Rentrer tard le soir, ouais. Avec tamponné par l'éducation nationale. Je suis avec le prof et tout. Mais, la première bière, comme ça, au bistrot du coin.
À 4 ans.
Mais c'est vrai, c'est surtout cette trouille-là qui vous envahit parce que vous allez jouer devant les autres et se dire... qu'on a envie de mourir, qu'on n'a pas envie de ou qu'il se passe un drame de façon à ce que la représentation soit annulée. Et en même temps, quand on l'a fait, ce sentiment incroyable, cette, oui, vraiment, se dire, je l'ai fait, quoi, je l'ai fait mal, mais je l'ai fait. Et ça vaut de l'or en barre. C'est ce que j'essaye de faire passer, moi, à chaque fois que je peux, mais, les matières artistiques à l'école, ça permet ça. C'est une aventure incroyable de solidarité déjà. On travaille ensemble sur un projet, on s'émancipe de plein de choses, on s'affirme et surtout ce sentiment, voilà, d'avoir dépassé des peurs. Après, on peut affronter plein de choses.
Il parle bien, ouais. Il parle bien. Tout à l'heure, ça a été évoqué par Eric Nolo, puisqu'on est quand même pas mal à être ou fils de prof ou ex-prof pour ce qui est de Leïla. Quand on entend cette espèce d'ineptie, de bêtise, de connerie, je ne sais pas quel mot donner à cette réforme de l'orthographe qui veut enlever les accents circonflexes, qui veut enlever les Y, qui veut enlever les difficultés finalement écrire.
Moi j'étais en avance sur la mesure.
Écrire en SMS quoi finalement. Écrire en SMS, vous en pensez quoi? Alors j'ai un peu introduit le sujet.
C'est ce que vous en pensez, vous, Nagui. C'est sûr.
Eh ben je trouve ça très bien. C'est effectivement bête parce que, et en plus, voilà, c'est un garçon nul en orthographe qui s'adresse à vous quand je dis ça. J'ai eu tout le temps zéro en orthographe. Et pourtant, je fais du théâtre. Et pourtant, j'ai publié des bouquins. Et c'est, j'aime écrire, j'aime lire. Mais justement, l'orthographe, si on n'a pas la chance au début de bien s'orienter au niveau scolaire et d'avoir des bonnes notes, c'est un combat. Mais ce combat, il est culturel, il est intéressant, il est historique. C'est-à-dire qu'effectivement, un accent circonflexe témoigne d'une histoire, de rencontres, de peuples, des Romains qui envahissent la Gaule, etc. De ce latin amoché par les Gaulois qui ont été contraints d'apprendre une langue. Et c'est devenu ce chef-d'œuvre qui est la langue française. Et donc, ça veut dire que le langage évolue tout le temps. Il évolue, il se corrige, il s'influence par les migrations, par les réfugiés, par tout le monde qui vient dans ce pays, qui en partent, qui en reviennent. Le français influence les langues étrangères aussi. Il y a plein de mots français en Angleterre. On dit un rendez-vous en Angleterre,
c'est ça,
etc.
C'est charmant,
on a plein de mots arabes en France,
mais si
etc.
C'est une langue vivante. Si c'est une langue vivante, est-ce qu'il n'est pas normal qu'elle évolue?
Non, parce qu'elle doit évoluer par assimilation
populaire.
Mais là, c'est
populaire, par décret. Là, elle évolue par décret.
Quelques personnes qui pensent que le public est trop con et donc on doit diminuer. Et moi, je pense que la meilleure assimilation, c'est ce qu'en fait le peuple. C'est les mots qu'on retient de l'argot des métiers, qu'on retient de nos campagnes, etc.
La langue vivante, qu'elle évolue parce qu'elle est vivante et que l'on prenne des mots anglais parce que finalement un parking c'est un parking et qu'on va pas appeler ça le placement en sous-sol.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
Non, mais voilà, ou comme le courriel, il y en a qui ont essayé le courriel, mais
c'est la lutte des Québécois.
On s'en fout, c'est l'email. Ouais. Et puis à l'inverse, Philippe a totalement raison. Quand on voit tous azimut, ou le hasard, ça vient d'un mot arabe. Il y a des mots turcs qui ont influencé.
Et puis
le toubib, c'est.
Mais c'est comme en littérature quand on tombe sur un ouvrage qui fait référence à un philosophe qu'on ne connaît pas. C'est génial, au contraire. C'est ce qui nous fait avancer. Voilà, tout d'un coup, on ouvre un bouquin, on a Deleuze. Ah, je connais pas Deleuze. Hop, je vais. Et maintenant, on a tous des appareils. On allume. En deux secondes, on a la réponse. Et on peut aller plus loin. C'est si on simplifie tout.
Finalement, on crée
un no man's land.
Oui, mais en même temps, est-ce que c'est forcément... C'est personnel, hein. Pourtant j'ai été prof de latin, donc je suis dans la défense de la langue, de l'orthographe. Est-ce que c'est si capital en ce moment que ce débat prenne autant d'importance? J'aimerais que les gens se mobilisent autant sur l'orthographe et sur d'autres
sujets
qui me semblent aussi
importants. Je crois qu'il
en
a parce que ça va avec d'autres choses. C'est-à-dire que ça va avec la réforme des collèges aussi. Ça va avec cette façon de libérer le temps scolaire qui est une vaste bouffonnerie parce que finalement ça se transforme en quoi? En halte garderie entre midi et 14h. Et où les enfants sont, au lieu de faire des disciplines artistiques, sont gardés par quatre adolescents boutonneux qui savent à peine, qui sont complètement débordés par ce qui se passe. Et pour les quelques communes qui ont la chance de pas être surendettés, qui peuvent se payer des vrais artistes et des vrais intervenants, sinon c'est de la halte-garderie. Donc c'est vraiment de la bouffonnerie. Et finalement, je sais bien que le ministère a un beau discours par rapport à ça, mais quand on va sur le terrain, c'est catastrophique. Or, Voilà, c'est pour ça que c'est un empilement de choses qui vont dans le même sens. L'école est en train de se transformer en un tube par lequel on rentre et par lequel on sort. Voilà. Et entre les deux, on s'en fout de ce qui se passe. Le but, c'est de passer. On passe de sixième en cinquième, en quatrième, et voilà.
Mais Philippe, il y a autre chose. On a l'impression que, de manière un peu générale, on est en train de bidouiller beaucoup de choses fondamentales. La nationalité, la constitution, la langue française, je trouve que ça fait beaucoup et ce sont des choses qu'on devrait aborder avec beaucoup de prudence plutôt que de bidouiller ça en disant que ça n'a aucune importance.
Simplifions les démarches administratives.
Tu veux pas qu'il y ait une loi sur, par exemple, Leïla, parce que tu penses qu'il faut légiférer, par exemple, les mathématiques, qu'on fasse passer une loi et on dit, 2 fois 2, ça peut faire 22 plutôt que 4, quoi.
Non, mais la question n'est pas là. Non, mais c'est pas aussi. En plus, je ne m'oppose pas, je dis simplement. J'apporte juste une nuance, puisque comme on a l'air d'être tous d'accord sur
Non,
ça n'a pas d'intérêt.
J'ai une idée. Les dates en histoire, on s'en fout.
Non, mais arrête, faut pas être caricatural. Ouais, j'apporte juste une sorte de petite nuance, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut préserver la langue française, qu'il faut essayer de protéger, et moi, c'est mon combat, le latin, l'enseignement du latin qui va disparaître, l'enseignement du grec ancien, même si ce sont des choses a priori inutiles pour nos dirigeants, mais je trouve qu'il faut conserver et cultiver l'inutilité dans l'apprentissage aussi, dans ce qu'on apprend au quotidien à l'école. Je dis simplement que, je trouve que, voilà, on en parle beaucoup et j'aimerais qu'on parle plus de la déchéance de nationalité, que tout le monde se sente plus concerné par ça.
On parle de tout, moi je fais même un bloc avec tout ça.
Mais voilà, il faut tout expliquer, si vous voyez ce que je veux dire. Tout mérite d'avoir une explication. L'orthographe comme un acte terroriste. Il faut expliquer les choses. Il faut comprendre d'où viennent les choses. Tout. Et expliquer, c'est un chemin de connaissance. Et donc, un accent circonflexe témoigne d'une histoire. Une façon bizarre d'orthographier un mot, même si ça nous vaut un zéro, eh bien, il témoigne de quelque chose.
L'accent circonflexe remplaçait le S qu'il y avait avant le T.
Ouais, voilà, le S. Je parle de voie de contrôle.
Par exemple.
Mais c'est ça. Comme
et
dans
surtout,
forêt,
c'est que.
Forestière, d'ailleurs.
Au contraire, pour donner envie de lire, pour donner envie de découvrir ça. Et je trouve que l'enseignement artistique en milieu scolaire, c'est la réponse absolue par rapport à ça. Et c'est la réponse absolue au vivre ensemble.
Il y a beaucoup de scolaires
dont on parle beaucoup en ce moment.
Il y a beaucoup de scolaires qui viennent voir Cyrano, justement. Vous savez, vous voyez arriver des classes.
Là, on débute, on vient de débuter, mais effectivement, il y a énormément de réservations de scolaires.
Génial.
Et je m'en réjouis.
Génial. Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors, on avait d'autres dates dans cette bande originale. On s'est un peu enflammé. Il y avait une date que je voulais pas passer à la trappe. C'était en 1979. C'était pour parler de la date, mais surtout parler de Earth, Wind & Fire et de Maurice White, qui malheureusement membre de ce groupe qui nous a quittés, voilà, qui est mort hier soir. Earth, Wind & Fire, c'était September, c'était aussi Let's Groove. J'adore ce truc-là, mais j'adore chanter faux sur des bons disques. Vous avez grandi avec quelle musique d'ailleurs? Avec une musique classique que vos parents écoutaient?
Pas tellement, il y avait quelques disques classiques qu'on qualifiait de grande musique à la maison. Mais non, c'était surtout les musiques de mon grand frère, donc les Stones, les Beatles, Animals, de mon oncle, un peu plus vieux que mon grand frère, qui voilà, un fan d'Animals et tout, et puis de effectivement Eagles. Il y avait aussi, je me souviens d'un groupe, Jiggles Band.
Jiggles Band,
c'est ça. Voilà.
Ça avait l'air bien.
Grand moment.
C'était le groupe. Un jour, vous irez en prison.
Il y avait. C'était le groupe de Paul Weller, monsieur.
Fleetwood Mac aussi.
Me dis pas
aussi.
Que tu connais pas. Ouais, Stevie Nicks.
Fleetwood Mac, j'adorais.
Et alors, quand on parle d'amour de Cyrano de Bergerac et de cette timidité que vous aviez pour aller auprès des filles, pour draguer quand vous étiez
mais pour tout.
Adolescent. Oui, mais parlons de la drague et de l'amour, parce que c'est ça aussi, Roxane. Et Cyrano, est-ce que vous avez déjà aimé une fille sans jamais le lui dire, sans jamais oser lui parler, sans jamais lui écrire?
Oui.
Ou c'était juste un flash et rien de plus?
Oui, c'est arrivé. Oui.
Vous voulez pas le dire maintenant?
Non.
Ça nous arrangerait.
Ouais, non, c'était. Je crois que c'était au collège.
Mais tout ça, il y a un écho dans Cyrano aussi.
Mais on a tous un écho par rapport à ça. Cet empêchement-là de dire, cette envie de vivre un grand amour qui ne peut pas se faire et qui ne peut pas se dire. Et justement, et tous les moyens qu'on prend pour essayer de justement de purger ça aussi, c'est que dans l'énergie de Cyrano, il y a du désespoir amoureux, dans sa façon d'aller se battre pour protéger un poète à un contre-sang porte d'Onel. Ça peut paraître comme un acte désespéré, mais effectivement, il y a un vrai courage, mais il y a aussi, de toute façon, je m'en fous de la mort, puisque je ne peux pas aimer et je ne pourrai pas être aimé. Donc, un contre-sang, j'y vais.
Daniel, on le voit avec Cyrano de Bergerac, oui. L'amour, quand il est grand, quand il est vrai, il n'a pas besoin d'être consommé pour être beau.
Oh là 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 là, oh là 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 là, Nagui, oh le Nagui, oh le sagouin. Mais comment osez-vous dire ça devant Eric Nolot? Eric Nolot, le proxénète d'élite au physique de serial killer albanais. Oh, excusez-le Eric, il dit n'importe quoi en ce moment l'Égyptien. Mon petit Nagui, sachez que pour des hommes, Nagui, des grands, des vrais, comme l'est sans conteste Eric Nolot, il n'est point d'amour possible sans consommation outrancière de la chair, quitte à la faire tomber. Chez Eric, l'amour est un banquet flunch, mais un banquet quand même. Aimer sans consommer, c'est comme avoir les clés d'une Ferrari mais rentrer en bus. Aimer sans consommer, c'est être socialiste de cœur et soutenir Emmanuel Macron. Aimer sans consommer, c'est avoir Kim Kardashian dans son lit et rêver de Christine Boutin. Oh. Ah, vous voyez, j'ai raison.
Là, j'ai compris.
L'amour, quand il est grand, quand il est vrai, nécessairement, il faut le déguster, le consommer, le croquer, le dévorer, y aller sans retenue jusqu'à l'écœurement s'il le faut, mais le vivre intensément, goulûment, sans pincettes. Je peux vous garantir que quand Eric Nolot vous confine de ses hôtesses à 300 euros la demi-heure, eh ben, vous passez à table. Je vous dis ça, Nagui, mais pff, oui. Vous le savez mieux que quiconque, hein. Vous qu'on appelle dans le privé le Gargantua de la romance. Alors maintenant, appétit passionnel n'excuse pas pour autant une goujaterie sentimentale. Et là, je m'adresse à Pierre-Emmanuel Barré, grand consommateur de petites passions. Aimer intensément, c'est bien, Pierre-Emmanuel. Maintenant, il faudrait aussi penser, quand tu as terminé, à détacher les victimes. Nagui, l'amour ne prend son envol et toute sa dimension que dans l'extravagance de sa consommation.
Oh voilà, là là, je vais réfléchir à cette phrase. Merci, Daniel.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
General Electric, sans live, tout à l'heure, c'était ça. L'album s'appelle To Be a Stranger et on parle d'hommages et d'artistes qui nous ont quittés trop rapidement. General Electric avait envie de rendre hommage à David Bowie avec ce titre Andy Warhol en live dans la bande originale. General Electric avec cette reprise Andy Warhol signée David Bowie, et General Electric de revenir tout à l'heure dans la deuxième partie avec un nouveau titre de leur album sur lequel il y a Angle Boogie. À tout à l'heure, Ave, merci. Ils sont en tournée, General Electric. Hein. Je vous rappelle que toutes les dates seront sur le site de l'émission, mais notamment Nîmes, Angers, Marseille, Lille ou autre, Nantes, courant mars. Mars, ça finira par le Trianon à Paris, et ils reviendront à Paris au mois de novembre à l'Olympia. Et vous aussi, vous êtes en concert, Philippe Torreton, parce que non seulement, non content d'être Cyrano toute la semaine, le lundi, vous êtes off, vous pourriez vous reposer. Bah, pas du tout. Lundi 15 février, vous serez à la Cigale, lundi en 8, donc, oui. Pour interpréter ces... les textes d'Alain Leprest.
J'ai peur de vous, de moi, j'ai peur des yeux terribles des enfants.
Alors, expliquez-nous, ciel, des fleurs, quel est l'exercice? Vous êtes un récitant et c'est mis en musique avec des percussions?
Oui, c'est un percussionniste que j'adore qui s'appelle Édouard Perrault qui interprète avec moi les textes d'Alain Leprest. Et voilà, c'est je sais pas comment définir ça.
Un hommage
très
embêté
pour dire comment.
Il nous a quitté il y a 4 ans. Ouais, d'accord, 4 ans.
Il s'est suicidé il y a 4 ans, au mois d'août.
En 2011, ouais.
Ouais. Et puis, un an après, son premier producteur est venu me contacter pour me demander si je voulais reprendre ses textes en scène. Et puis, j'avais connu, moi, Alain Leprest, dans la banlieue de Rouen. On vient de Rouen, tous les deux. J'avais 17 ans quand j'ai été le voir au Bateau Ivre à Rouen, et puis j'ai eu un choc, un choc d'écriture, de présence aussi scénique, de vie déchirée comme ça, donnée en pâture aux gens, sans phare, sans coquetterie d'artiste, sans rien. C'était impressionnant. Il a été comme ça toute sa vie.
Il pleut sur la mer, ça sert à rien, à rien et à rien. Mais quoi sert à quoi? Les cieux, c'est leur droit d'avoir du chagrin. Les nuages indiens vident leur carquois. C'est l'été Comanche. Sur la Manche.
Il y a un album qui s'appelle Mec, qui est un texte aussi, une poésie d'Alain Leprest, Philippe Torreton, Édouard Perrault et les textes d'Alain Leprest. L'album s'appelle Mec et le concert sera à la Cigale, et puis il y aura une tournée dans toute la France. Là aussi, on mettra toutes les dates sur le site de
première partie,
de l'émission.
Il y aura un jeune garçon qui s'appelle Pierre Lebelage, qui est vachement bien.
Très bien. Je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais ». Vous
d'accord.
Les concluez comme vous l'entendez. C'est Richard Lornac qui nous accompagne. Philippe Torreton, « Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant ».
Toutes les affiches de théâtre que j'avais récupérées dans une maison de la culture, je ne sais plus laquelle, et j'en avais fait tout un patchwork pour cacher mon papier peint, que je n'aimais plus. Et donc, et c'était rigolo après de retrouver certains acteurs qui étaient sur ces affiches, certains noms. C'était assez étrange.
Je n'oublierai jamais mon premier baiser.
Ah non, avec Tracy, une Anglaise, qui m'a défoncé la bouche.
Je n'oublierai jamais mon premier sentiment de liberté.
Mon premier sentiment de liberté, quand je crois que c'est très lié au théâtre, c'est très ou quand Tracy m'a libéré, mais c'est lié au théâtre, oui, c'est cette façon de vivre l'école à côté comme ça, de ces profs qui se transforment en copains
et pouvoir rentrer tard
ce sentiment de vivre comme ça intensément.
Philippe Torreton est notre invité, il est Cyrano de Bergerac au théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'à bientôt. La bande originale avec Leïla Cadron et Dani, Eric Nolo, Pierre-Emmanuel Barret, Daniel Morin,
bravo.
Richard Lornac.
Bravo aussi.
General Electric sera en live tout à l'heure et notre invité est Monsieur Philippe Torreton.
Ouais.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin pour Cyrano de Bergerac, à la Cigale pour le concert de Mec, entre guillemets, les textes d'Alain Leprest, ça sera le 15 février, uniquement cette date exceptionnelle, puis la tournée en toute la France. Mais Cyrano de Bergerac, c'est tous les jours de la semaine, sauf le lundi, et ça sera jusqu'à la mi-avril, puisqu'il y a
60 représentations.
Et évidemment, ces scènes qui sont cultes, mythiques de Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire la tirade
du nez
et la scène du balcon. Alors comment ça se...
Eh bien, la scène du balcon,
des moments clés.
C'est génialissime, c'est totalement réinventé puisqu'on fait appel aux moyens modernes. C'est totalement anachronique. Vous utilisez Skype.
Oui, alors c'est pas anachronique par rapport à notre parti pris de départ, puisqu'on se retrouve dans un asile, et de nos jours, quoi. Et donc, effectivement, le metteur en scène a pensé que comment traduire le balcon de nos jours, et c'est vrai que ce sont ces systèmes de communication-là, de Skype, de réseaux sociaux, enfin, c'est là où on s'exprime, et on remarque souvent que d'ailleurs que les gens sont beaucoup plus, entreprenant et caché derrière son écran d'ordinateur que en face de quelqu'un.
Faut préciser que c'est pas du tout qu'un phénomène de mode Skype, il y a des entretiens d'embauche maintenant qui se font par internet, par caméra interposée, comme la scène du balcon. Cyrano est planqué dans les bosquets et fait comme le souffleur au théâtre suggère les répliques et ce
pauvre Christian qui est mal à l'aise
à Roxane, voilà.
Qui n'est pas élégant dans
là,
les verbes.
Il est quoi ? Il est hors cadre ?
Non, au départ il est face caméra et Roxane le voit, il cache juste sa bouche puisque, voilà, hein, c'est pas lui qui parle vraiment. Et tout d'un coup, c'est vous qui prenez le relais.
Et moi, j'appuie sur l'ordinateur pour enlever la vignette pour pas qu'elle voit que c'est moi qui suis dans le cadre. Et donc, elle n'entend plus qu'une voix. Voilà. Et là, c'est Cyrano qui peut s'exprimer.
Et c'est très bien fait parce qu'on voit en gros plan la comédienne qui incarne Roxane. Et on voit toutes les émotions. On perçoit à ce moment-là la folie amoureuse qui s'empare d'elle et qu'elle n'est plus vraiment dans juste l'amour de l'enveloppe de Christian qui est très beau. Elle est amoureuse de l'âme de Christian et malheureusement pour Christian, mais heureusement pour Cyrano, c'est de Cyrano dont elle est amoureuse.
Oui, des mots de Cyrano, effectivement. Et Christian qui est joué par Patrice Costa, super Christian. mais effectivement, le Skype, c'est vraiment le balcon moderne. Le balcon, il avait cette fonction-là, c'est de pouvoir s'adresser à celle qu'on aime, lui envoyer un message, soit en convoquant des musiciens, en jouant ou en déclamant des choses. Voilà, c'est Internet et
la fenêtre sur l'extérieur.
Exactement. Et je trouve que ça permet aussi, comme vous le faisiez remarquer, effectivement, de voir le visage de Roxane en énorme, parce qu'on a un écran qui descend, manipulé par l'ordinateur, et donc on voit en 3x4 un gros plan comme ça, et on voit l'effet des mots d'amour sur Roxane, sur Julianne Roth, qui se rengorge de ça. On voit l'émotion monter et c'est extraordinairement fait. Elle est vraiment balèze, cette comédienne.
Est-ce qu'elle
est en coulisses comme ça, c'est en direct. Ouais. Donc elle est dans une petite loge, un petit
elle joue
studio
face caméra,
cinéma.
Ouais.
Elle joue face caméra et elle n'a que les mots et on voit l'effet des mots sur elle. Et ça, on le voit jamais dans les mises en scène. Parce que habituellement, on met un balcon, la comédienne, elle est à 3 mètres de hauteur, elle se brûle les cheveux sur les projecteurs, personne la voit, et voilà. Et on ne voit que Cyrano. Tandis que là, voilà, elle est en plein cadre, et les gens peuvent vraiment vivre ça avec elle.
Ça donne envie, en tout cas. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin, Cyrano de Bergerac, interprété par Philippe Torreton. Voici l'humeur de Daniel Morin.
Ah, nom de Dieu, quelle joie de retrouver ce phénoménal comédien qu'est Philippe Torreton. Quelle présence, quelle classe, quel panache. Un homme qui a la gauche chevillée au corps, toujours engagé, toujours révolté, toujours en train de gueuler. Ça va, Philippe ? Non ! Ça te va pas ? Le chômage progresse et on ne fait rien ! Merde, à la fin ! Tu travailles en ce moment ? Oui, je travaille, monsieur, mais j'ai honte. J'ai honte devant les cohortes de mes concitoyens qui sont exclus de la vie active. Tu es parti en vacances ? Nulle part. D'ailleurs, je me demande, comment peut-on avoir l'outrecuidance d'aller se faire bronzer le cul dans des pays qui souffrent, mais garde le sourire quand même pour le confort de nos petites personnes qui, à coup de billets de 500 euros, ne leur laissent comme pourboire que leur mépris citadin et leur arrogance occidentale. Il faut pas vous énerver, Philippe, je disais juste ça comme ça. Eh ben, ferme ta gueule, alors ! Waouh, ça, c'est du Torreton. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que Philippe Torreton mette son grand talent en danger. Comment ? En mettant ses convictions à l'épreuve. Imaginons un Cyrano défenseur d'une cause improbable pour un Philippe Torreton. Le retour de Nicolas Sarkozy. Quoi ? Le retour de Nicolas Sarkozy, juste une bonne nouvelle ? Ah non ! C'est un peu court, jeune homme. Sur ce retour, on pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme. » En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, pour le retour d'un homme qui a autant de classe, je ne dis pas retour, je dis état de grâce. Emphatique. Dire son retour petit, je trouve ça débile. Chez cet homme, tout est grand, grand comme un Playmobil. Pratique. Voulez-vous pour ce cher Sarkozy que pour mieux l'accueillir, on appelle Balkany ? Gracieux. Nous aimons à tel point le Nico que paternellement, nous nous préoccupons de lui réactiver le réseau Big Malion. Descriptif. Quel comeback, quelle pirouette, quel retour. J'entends sonner la caisse chez Liliane Bettencourt. Voilà ce qu'à peu près vous m'auriez dit sur le retour de Sarkozy si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais vous ne respectez pas ce géant chez les nains, leader incontesté chez les républicains. Vous êtes un homme du passé et de lettres, vous n'avez que des lettres usées. Vous n'avez que les trois qui forment UMP. Ça, pour un torréton, c'est du challenge. Bon week-end. Oh, voilà.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Edmond Morin, Daniel Rostand. Quel joli couple. Mais belle écriture, belle plume, mon ami.
Ça dépend de l'invité. Hein.
Je vois.
L'inspiration, c'est l'inspiration.
Ils vont bien les prendre les autres.
Merci pour les autres.
Ouais, c'est ça, ils vont bien
le vivre. Je dis ça tous les jours. Hein,
est-ce que vous... Non, mais là, j'avoue que la plume... Même Eric Nolot, j'ai bien vu votre regard impressionné par la plume de Daniel Morin.
Envieux, pas impressionné, envieux.
En un mot, pardon.
Oui, d'accord.
Jaloux.
Parce que vu le papier de Barré, là, j'étais un peu troublé. Est-ce qu'on se pose des questions lorsque l'on entend parler de Cyrano de Bergerac, d'incarner ce personnage qui a déjà été porté, incarné au cinéma, au théâtre? Beaucoup de comédiens se le sont appropriés. On a souvent entendu, mais jamais personne ne sera meilleur que Jacques Weber, meilleur que Depardieu. Et on se pose ce genre de questions ou on s'en fout et on se dit, on peut être un autre Cyrano ou on peut aussi se l'accaparer?
Ah oui, parce que c'est la chance de faire du théâtre depuis longtemps, parce que quel que soit le rôle que vous êtes amené à faire, des tas d'immenses comédiens vous ont précédé. Merci. Oh là là.
Et plume, Daniel.
Et donc, moi, j'ai toujours entendu ça. Quand j'étais à la Comédie Française, je jouais Scapin, enfin, je répétais Scapin, et tout le monde me disait, oh là là, Robert Hirsch dans Scapin, c'était, oh là là, c'était formidable. Tiens, comment tu vas faire la scène du sac? Parce que lui, il faisait, oh là, c'était extraordinaire.
C'est une pression supplémentaire, ça.
Oui, mais on s'habitue à ça. Mm. Et puis, c'est la fonction même du théâtre de reprendre, de toute façon, ces textes-là. Donc, finalement, on se pose pas la question. Et en plus, là, l'avantage, c'est que cette mise en scène délocalisait tellement l'œuvre ailleurs qu'on avait l'impression de faire une création, finalement. On avait l'impression de retourner à un texte inédit. Et c'était un peu ça, et c'est comme ça aussi que les gens le... Et puis, je crois, surtout, ce qui compte, c'est de ne pas penser à un personnage, ne pas penser à ce qu'on va faire, est-ce que je suis Cyrano? C'est qu'est-ce qu'il dit, Cyrano? Et ça, se mettre... Moi, c'est ce que je conseille aux autres acteurs, mais plutôt que de se mettre à la place du personnage... Mettons-nous à la place du spectateur qui va entendre ça, peut-être pour la première fois, parce qu'on croit connaître les œuvres, mais on ne les connaît pas en fait. Et être au service d'une écriture et le dire. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de tirade du nez. C'est une réponse à quelqu'un un peu insolent et je le remets à sa place. Ce n'est pas une tirade, ce n'est pas un moment. Ça pourrait durer 2 secondes avec un coup de poing, mais là, ça dure 10 minutes avec des mots. C'est comme les non-merci. C'est pas une tirade. C'est une profession de foi. C'est quelqu'un qui dit non, je ne veux pas être comme ça. Et je vais t'expliquer ce que je ne veux pas être. Et qui le dit et qui l'assène. Et si on prend le temps de ça, on est en dehors de tout top 50, de qui a fait quoi avant. On s'en fout. C'est moi, aujourd'hui, qui le dis.
Et c'est pour ça qu'on entend très bien le texte.
Interprété, voilà, incarné par Philippe Torreton au théâtre de la Porte Saint-Martin. Voici le brouillon de culture de Leïla.
Philippe, des questions qui vous concernent, vos réponses à tous autour de la table, c'est le brouillon de culture sur France Inter et on commence avec un son.
Jamais je n'ai vu un acteur comme Philippe Torreton jouer aussi bien le temps qui a passé.
C'est donc une lettre que Nathalie Baye avait adressée en 98 à Bertrand Tavernier, lettre saluant votre rôle dans Capitaine Conan. Est-ce que c'est ce type d'hommage qui compte le plus?
C'est vrai que c'est hyper touchant. Que des acteurs, et là en l'occurrence une actrice, aient témoigné de ça, c'est surtout Nathalie Baye. Ça me touche énormément. Et oui, effectivement, il y a des regards comme ça ponctuels de gens sur ce que vous pouvez faire qui sont très émouvants. Je me souviens d'une discussion avec Michel Bouquet aussi à Lyon dans un restaurant, c'était croisé par hasard. Et c'était très agréable d'entendre ça, ce qu'il disait de moi. Et puis plein d'autres témoignages, parfois de gens connus, moins connus, mais effectivement des gens qui vous témoignent que bah voilà, j'avais envie de travailler avec vous, des choses comme ça. Et puis la réaction des gens, moi c'est le public aussi, c'est les gens qui sont surpris par exemple de quand on jouait Hamlet. Je me souviens, il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais moi Shakespeare, je pensais que c'était pas pour moi, je pensais que j'allais pas comprendre, que c'était compliqué. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture d'un livre qui va sortir dans peu de temps, mais sur Shakespeare, en disant, mais mon titre c'est Thank You Shakespeare, pour dire voilà, c'est Shakespeare, c'est à nous, c'est pour nous. Voilà, c'est un théâtre, c'est un auteur populaire. C'est comme le disait Antoine Vitez, le théâtre élitaire pour tous. C'est fantastiquement populaire, génialement populaire. Et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, 400 ans après sa mort, ce soit plus compliqué que quand il écrit, que quand il jouait.
Autre forme d'hommage, on écoute.
Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point.
Monsieur, que vous ai-je fait ?
Léandre, en voulant le frapper. Que tu m'as fait, espèce de traître ?
Et doucement.
Non, Octave, je veux qu'il se confesse lui-même tout à l'heure. La perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin, je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre. Et tu ne croyais peut-être pas que le monde eût révélé ses secrets ? Alors.
On est en 98 sur l'antenne de Radio Nova, c'est ouais, la fourberie de Scapin, acte 2, scène 3. Vous êtes dans le rôle de Scapin, il y a un certain Omar Sy dans le rôle d'Octave et un certain Jamil Debbouze dans celui de Léandre.
C'est incroyable. Ils ont fait des progrès depuis.
C'est collector.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est...
C'était une émission assez branzingue et tout. Et puis, ils ont voulu me donner jouer. La réplique dans Scapin et jouer. Et puis... Mais je trouvais ça formidable. Mais j'ai toujours pensé que, de toute façon, Jamel, il a un emploi incroyable. J'ai hâte de le voir dans Harlequin. Il devrait jouer Harlequin. Dans Goldoni, dans Marivaux. C'est un génial Harlequin.
Et vraiment. Allez voir Omar Sy dans Chocolat, vous serez pas déçus.
Et
je crois qu'il
est formidable.
Il est fort, ouais.
On l'a reçu pour ça et c'est vraiment très très beau. Et je vous fais un petit cadeau pour terminer qui n'est rien comparé au plaisir que j'ai eu à vous voir sur scène.
Ça va tous les deux là?
Mais non, mais elle est sincère. Non, mais très sincèrement.
Elle m'a envoyé, en sortant de la pièce, elle m'a envoyé un texto. En lisant le texto, j'ai eu la chair de poule tellement.
Mais c'est parlé Roxane.
Ouais.
Oui, non mais je pourrais être Roxane c'est impossible de pas tomber amoureuse de Cyrano. Et je vous fais juste un petit cadeau, c'est un livre « J'irai écrire sur vos tombes », 250 épitaphes farfelues. L'épitaphe pour Edmond Rostand, c'est « Auteur d'une pièce que les progrès de la chirurgie esthétique nasale ont ringardisée ». C'est écrit par Guillaume Delacroix, c'est aux éditions Autrement. Je vais vous en lire une, on va voir si vous pouvez trouver de qui il s'agit. On pourrait écrire sur la tombe de cette personne, boxeur, qui doit sa notoriété à son bon bouche à oreille, d'après vous.
Mike Tyson. Qui avait mordu Evander Holyfield.
Alors, il y en a une un peu moins sympa. Vous allez voir qu'il alterne pas mal les styles. Quand on veut citer un bon film de Luc Besson, après Le Grand Bleu, il y a souvent un grand blanc.
C'est méchant.
Ça, c'est pour Luc Besson. Donc, il y en a pour tout le monde. C'est un peu dur. Parfois, c'est très drôle. Petit malin qui doit sa fortune aux misérables, d'après vous, qui est-ce?
Petit malin qui doit sa fortune aux misérables.
Victor Hugo.
Ouais.
Voilà.
Ouais, c'est dur pour Luc Besson parce que après Le Grand Bleu, moi, il y a le film qu'il a fait justement avec Jamel, dont on parlait à l'instant, dont le titre m'échappe, mais qui était formidable.
Et qui était en noir et blanc?
Dans Paris désert et tout.
Angela.
Et puis il y a eu Léon que j'ai vraiment
et puis il y a eu Banlieue 13 dans lequel vous jouez.
Mais c'est un film produit par Luc Besson.
Ah, on se défend, on se débine.
Voici le retour de General Electric. Tout à l'heure c'était Angle Boogie. Et maintenant voici Whisper to Me, General Electric, en live dans la bande originale.
Where am I gonna go?
Hervé pour General Electric, accompagné par Eric à la guitare, Tuski au vibra, Jordan à la batterie, Jesse, fan de Linda Ronstadt, au clavier aussi. J'aime bien ce t-shirt de Linda Ronstadt, That'll Be The Day. Merci mille fois, Hervé. Merci.
Quand
beaucoup.
On voit le jeu au clavier, on comprend le génocide d'empreintes digitales.
Ils sont très très forts. Ils jouent extrêmement bien et je souhaite qu'une chose, c'est que tu repasses vite dans ta ratata, mon gars, qu'on voit aussi le jeu de jambes. En plus d'avoir le son, voilà, ça sera avec plaisir. L'album s'appelle To Be a Stranger. Bravo. General Electric en tournée. Merci. Bravo.
France Inter. La bande originale.
Pour Philippe Torreton, des questions en cascade, une cascade de questions, ça veut dire des questions courtes et des réponses courtes. Leïla.
Philippe, est-ce que vous êtes meilleur sur scène quand vous êtes amoureux?
Pas forcément.
Daniel Morin.
Parmi les spectateurs que vous apostrophez à la fin de la pièce, Philippe, est-ce qu'il y en a qui le prennent mal et qui vous répondent?
Non.
Pierre-Emmanuel Barré.
Oui, vous avez perdu 27 kilos pour un film sur l'affaire Doutreau. Est-ce que vous seriez prêt à perdre 27 centimètres pour un film sur l'affaire Bettencourt?
Chiche. Eric Nolot.
Taubira ou Macron? C'est pas facile, je sais.
Oh là là, Taubira.
Leïla.
Justement, vous parlez de la politique française comme d'une politique d'épicerie. En 2017, vous aimeriez jouer à la marchande avec qui?
En 2017, eh ben, il faut qu'on bosse.
Avec
voilà,
qui?
À gauche.
Avec qui?
Je pense que c'est pour l'instant la question de la personne ne se pose pas. Il faut le
il faut établir un programme, un changement de cap radical de cette société qui s'en va vers le marchand à grands pas.
Daniel Morin.
Philippe, vous êtes plutôt Macra ou Tobiron?
Cyrano de Bergerac, Philippe Torreton, merci mille fois. C'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et un merci particulier à Leïla qui nous a donné envie d'aller vous applaudir dans cette pièce et mon Rostand. Merci Philippe.
Et merci à vous.
Et bon concert à la Cigale aussi, il ne faut pas oublier.
Ah oui.
Avec les textes d'Alain Leprez.
Ma première à la Cigale, c'est incroyable. Ah,
faites des selfies. Que oui. Va-t-il ? Des excuses peut-être.
Alors désolé pour toutes nos auditrices qui fantasmaient sur Philippe Torreton et qui ont découvert avec effarement que petit, leur idole avait la même vie que Richard Lornac. Et ça fait mal. Désolé pour tous les chauves moustachus qui nous écoutent et qu'on tolère. Philippe Torreton l'a dit, vous avez des gueules de Patrick Sébastien. Ah, pas de bol, les gars. Et désolé pour tous les profs de français qui nous écoutent et qui ont découvert avec horreur et effroi l'orientation sexuelle de Cyrano de Bergerac. Comme dit Nolo, faites gaffe, ils sont partout.
Oh non. Merci à vous d'être venus au studio 106. Bonne journée Philippe Torreton et cette journée continue avec un autre Philippe Bertrand pour ses carnets de campagne. Bonjour Philippe.
Salut Nagui, bonjour tout le monde, bonjour Philippe, trop fort.
Bonjour Philippe.
Même Télérama a aimé. C'est incroyable.
Aïe.
Non. Tout le monde
et pourtant, c'est bien, allez-y, je vous assure. Ouais.
Vous parliez des mamans institutrices pardon, ou professeurs. Philippe, c'était une mère institutrice, un père pompiste, donc l'héritage parfait pour jouer Cyrano, les lettres et le carburant.
Oh, joli.
Joli.
Bon carnet de campagne.
Salut les amis.
Salut.